Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Parce que c'est vrai, la régalade, c'est dans la vallée. Mais une fois qu'on monte, qu'on prend de l'altitude, on est au-delà de la régalade. Et c'est le but de cette émission aujourd'hui. Bienvenue les amis, direction les Hautes-Alpes. Gap, Briançon, des spécialités, le tourton de Champsaur, les oreilles d'âne, le bleu du Queyras, on vous en parlait en long et en large jusqu'à midi et demi. Et avec moi autour de cette table, j'ai convoqué les professionnels de la montagne. Mes deux guides préférés. Je ne suis pas persuadé qu'on arrivera en altitude, ni dans quelles conditions on va y arriver. Mais en tout cas, il semble en connaître un bout sur la question.
Vous êtes pessimiste comme
non,
ça.
Non, je suis lucide. Comment ça va Jean-Sébastien?
Mais ça va formidablement bien.
Bienvenue Louise.
Merci beaucoup.
Ces deux-là qui vont s'affronter tout à l'heure dans le défi frigo.
Ah,
dès
oui.
Midi.
Je suis très motivée.
Vous avez intérêt.
Oui, oui.
Parce qu'aujourd'hui, il faut revenir à la marque.
Mais arrêtez avec ça.
C'est la plus grande escroquerie de ce début d'été. Vous jouez avec nous, il y aura des guides du routard à gagner, des montres RTL, et puis vous serez dans le petit chapeau pour le tirage au sort de vendredi pour gagner un séjour gastronomique de choix. Je vous en reparle dans quelques minutes. Jean-Seb, un mot sur le terroir du jour de ces Hautes-Alpes, justement. En gros, on se situe ça où?
Oui, c'est vrai, c'est où ça?
Non, mais c'est vrai.
Alors, en gros, c'est au sud du massif alpin, au sud des départements de l'Isère et de la Savoie, et puis au nord des Alpes de Haute-Provence. En revanche, c'est vrai que si je commence, vous allez déjà voir plus d'images si je vous parle de Briançon. Briançon, la ville la plus haute de France. Si je vous parle de Gap, cité aux façades pastel et ensoleillées. Il y a Embrun, également ville médiévale qui domine le lac de Serre-Ponçon. Et puis, partout, quand on est dans les Hautes-Alpes, c'est les Alpes, mais plus encore... Ça commence déjà à être le sud. Dans le pays de Biège, par exemple, vous avez les champs de lavande qui font concurrence aux vergers. On remarque vite que l'accent chante beaucoup plus un petit peu plus au nord, en Isère ou en Savoie, que le vent est souvent plus doux dans la journée. Le Queyras, ça dévoile des monts absolument intacts, des pics acérés. Partout, ce sont des vallées uniques, étonnantes, qui ont chacune leur identité, avec en point d'orgue, pour moi, la vallée de la Clarée. Elle est du côté de Montgenèvre. Et rien n'est beau dans ce département comme ce couloir de verdure, de chardon bleu, de digital, où la route serpente s'élève en traversant des villages typiques, où il y a des chapelles de poupées et des chalets rustiques. C'est un monde totalement irréel, de rocs arrondis, de pâturages, nets comme un gazon anglais, piquetés de fleurs multicolores. Parfois, on croise des ânes avec lesquels on aimerait bien rester un peu pour philosopher, mais il faut retourner dans le monde réel. Alors heureusement, c'est vrai qu'il y a les beaux produits qui ne manquent pas. Il y a quelques surprises qui apparaîtront au fil de la balade gourmande de ce matin. On va effectivement parler de tourtons, d'oreilles, de truites, de desserts, de miel. Enfin, on va être bien.
On va s'installer, vous allez voir. Alors, Louise Petit-Renaud, elle a cette particularité. Quand on lui dit Hautes-Alpes, généralement, nous, on nous dit ça, on pense au ski, on pense au vrai. Pas du tout. Elle, on lui dit Hautes-Alpes, elle pense immédiatement à...
Bah, aux agneaux.
À l'agneau de Sisteron.
Bah, oui, on ne peut pas imaginer ce paysage sans apercevoir ces agneaux avec les beaux bergers qui se baladent, qui gambadent dans les prairies. Il s'appelle effectivement l'agneau de Sisteron, aussi appelé l'agneau César. Il est exclusivement issu de races rustiques locales. Donc c'est la Mérinos d'Arles, la Montrérousse et Préalpes du Sud. Cet agneau de Sisteron bénéficie du fameux label rouge attestant d'une qualité supérieure en termes de production et d'une IGP. Sa particularité réside forcément dans son alimentation, ce qui lui donne ce goût unique. C'est un agneau d'exception. Et c'est donc pas par hasard que Sa Majesté la Reine Elisabeth II d'Angleterre a demandé, lors d'une visite officielle en France, que soit servi de l'agneau de Sisteron au repas officiel.
C'est un bel hommage,
parce que
quand on sait l'importance qu'on accorde aux agneaux, aux moutons en général en Angleterre, et à la qualité de cela.
Mais quand je vous dis que l'excellence réside en France.
L'excellence est française, et on vous le démontre dans cette émission dans RTL vous régale tout au long de cet été. Et dans la playlist de cette matinée, Nolwenn Leroy. Je voudrais également personnellement remercier Pascal Amiot qui signe la programmation musicale d'RTL vous régale ce matin parce que ce morceau-là peut me faire la journée. Oh ouais. Act Like You Know. Le Fat Larry's Band. Il y aura aussi les Innocents.
On se souviendra de ceux qui
Et histoire d'avoir définitivement les mains pleines, The Weeknd. C'est RTL vous régale, c'est en direct et c'est jusqu'à midi et demi. Bienvenue, très bonne fin de matinée avec nous.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Dans les Hautes-Alpes ce matin, RTL vous régale jusqu'à midi et demi avec mes deux camarades. Et Louise, vous serez le petit supplément d'âne de cette émission ce matin.
Il est fort. Et il faut être fort justement pour grimper ces montagnes des Hautes-Alpes. Donc on va vous parler de spécialités. La première, c'est l'oreille d'âne. Alors je vous rassure, hein, ce ne sont pas des petites oreilles, des petites ânes. C'est un plat traditionnel du Valgaudemar. Pourquoi on appelle ça les oreilles d'âne? Car ça tient son nom de la feuille d'épinard sauvage que l'on utilise pour le préparer. Et celle-ci doit être ramassée quand elle atteint la taille et la forme d'une oreille d'âne.
Je ne me rends pas bien compte, ça fait quoi? C'est une trentaine de centimètres, une oreille d'âne?
Alors moi, j'ai aucune notion des centimètres, donc 30, si vous me dites que ça fait ça, parce que nous sommes en train de montrer. Voilà. Non, je dirais que c'est un peu plus petit. Et toute la recette... La recette consiste à mettre les épinards à gratiner, empilés avec une pâte. Alors à l'époque, ça se faisait avec des crêpes. Aujourd'hui, ça peut se faire avec une pâte de lasagne, nappée de béchamel, crème et fromage râpé. Bah oui, il faut que ça tienne encore.
Ça reste un truc de montagne. Hein. On a parlé du tourton dans le générique de cette émission.
Oui, c'est joli.
C'est quoi?
Petit tourton. Ouais. C'est une spécialité traditionnelle originaire du Champsaur. Ce sont des beignets frits, croustillants, délicieux. Ils étaient autrefois servis au repas de Noël. C'est pour ça qu'on l'appelait le coussin du petit Jésus.
Oh, ça aussi c'est bon. Oui,
j'adore ce qu'on fait. Aujourd'hui, on le déguste en toute saison parce qu'il faut que ça tienne au corps.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Alors, c'est fabriqué à base de purée de pommes de terre, de fromage pour ce qui est salé. Et vous avez aussi les versions sucrées avec des pommes, des pruneaux. On peut le faire aujourd'hui avec un petit peu tout ce qu'on trouve. Et ça a la réputation de bien tenir au corps quand il fait bien froid l'hiver ou même d'ailleurs l'été.
Connaissez, j'en sais, vous avez dégusté les tourtons de Champsaur?
Oui, c'est vrai. Alors, on en fait, il y a diverses versions, parce que c'est comme toutes les spécialités locales, il y a chaque famille a sa recette de tourtons. C'est vrai que de toute manière, ça tient au corps. C'est fait à base de purée de pommes de terre, de fromage. Dans la version salée, on rajoute aussi une tombée d'oignons et de poireaux, voire d'épinards. Et pourquoi pas en plus de la viande, pour vraiment carrément faire un plat complet. Et puis dans la version sucrée, on peut mettre effectivement des pruneaux. On peut aussi mettre de la purée de pommes parce qu'il y a pas mal de pommes qui sont cultivées, de pommiers qui sont cultivés dans les Hautes-Alpes. En tout cas, c'est un truc qui est fin délicieux, qu'on trouve généralement beaucoup sur les marchés. Il y a plein de stands qui vendent des tourtons.
C'est un peu street food sur... Oui, de montagne.
Oui, voilà. Peut... Enfin, c'est plus. Moi, je dirais plutôt, c'est très traditionnel plutôt que street food.
J'en sais même pas ce terme.
Mais moi, je trouve que c'est absolument pas péjoratif le terme street food. Ça dit bien ce que ça veut dire.
Oui, c'est-à-dire, ça veut rien dire.
Si, c'est un truc qu'on peut manger facilement dans la rue.
Oui, bien sûr.
Au vol, comme ça, voilà. En se baladant, en se promenant sur les marchés.
Bah, bien sûr, comme un hamburger, comme un shawarma, comme des falafels.
Non, ça va. Tout ça parce que je me suis délecté de quelques falafels. Hier, midi, on me fait un procès. Merci beaucoup.
Oui, mais vous n'étiez pas dans la rue non plus, vous étiez assis à une table.
Bon, jusqu'au... C'est vrai.
Donc c'est plutôt restaurant food là.
Jusqu'au 23 juillet, je coupe court à ces polémiques. Jusqu'au 23 juillet, je vous rappelle qu'il y a une cascade de cadeaux à gagner sur RTL. MacBook, iPhone 12 Pro, chèque de 1000 euros, week-end de Thalasso, semaine de vacances en famille chez VVF. Rendez-vous tout à l'heure à 11h55 pour tenter de gagner ce matin un week-end de détente et de remise en forme dans une des Thalasso Valdis Resort ou un MacBook Air. Pour tenter votre chance, vous vous inscrivez dès maintenant au 3210 par téléphone, 50 centimes la minute, ou vous envoyez RTL par SMS 74 975 centimes d'euros par SMS et on vous dit bonne chance. Voici le tout nouveau titre de Nolwenn Leroy. La chanson s'appelle Brésil Finistère, c'est signé par Benjamin Biolay, avec qui elle enregistre son nouvel album. On l'attend pour la fin de l'année. Nolwenn dans RTL vous régale. Nous sommes dans les Hautes-Alpes.
Pourrez-vous bien danser ce soir comme si c'était le dernier soir? Ça n'est qu'une façon de parler, bien, bien imagée. Pourrez-vous bien danser ce soir comme si c'était la dernière nuit? Comme si nous deux c'était pour la vie, c'est une formule. I'm
voit bien quand même l'ombre de Benjamin Biolay planer sur cette chanson, qu'on aime beaucoup d'ailleurs. Brésil Finistère, c'était Nolwenn Leroy sur RTL.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout de suite.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Et avec Louise et Jean-Sébastien qui ne manquent pas d'air aujourd'hui. Pourtant, on est au-dessus de 2000 mètres d'altitude.
Oui, c'est dans l'essentiel du département. Hein, parce que c'est vous êtes content de...
Je suis content de votre de petit lancement.
C'est un territoire qui est situé... On appelle ça le territoire des Hautes-Alpes, est entièrement situé en zone de montagne. Gap, je vous le disais, la plus haute préfecture de France. Un tiers du département est au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Quand vous tombez sur Saint-Véran, village de 250 habitants qui est à 2040 mètres. Eh bien, vous êtes rien moins que dans la commune la plus haute d'Europe. Saint-Véran qui se trouve dans le parc naturel régional du Queyras et on trouve là-bas un vrai savoir-faire original. Dans ce coin de France, où le soleil est généreux, s'il en est, on a toujours fait des cadrans solaires. Et il y a même une route des cadrans solaires qui sillonne toutes les Hautes-Alpes. Il y a plus de 400 cadrans peints ou sculptés qui sont répertoriés dans le département, dont 20 pour la seule commune de Saint-Véran. Je vous rappelle, hein, 20 cadrans solaires pour un village de 250 habitants. Hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Et quand on va un peu plus au nord, on arrive à Briançon. Briançon qui est à 1300 mètres d'altitude. C'est la ville où se trouve le carrefour de plusieurs vallées. C'est devenu très vite une place forte, une ville de garnison. Qui s'est chargé de faire cette place forte ? Évidemment, Vauban. La porte de Pignerol est un accès à la cité Vauban, histoire de découvrir la collégiale qui a également été dessinée sur les plans de Vauban. Le mobilier à l'intérieur de cette collégiale est absolument magnifique. Il y a un retable qui est de toute beauté et quand on voit les voûtes de la collégiale, on se rend compte que le maître des remparts français était surtout un architecte de génie, parce qu'il pouvait tout faire. Au fil des rues, les maisons anciennes, les immeubles renaissants se succèdent, on passe de la place d'armes à la place du temple. Et au-delà de la cité, il faut aller découvrir la ceinture de forts. Il y a 4 forts quand on est à Briançon, l'occasion d'excursion absolument superbe pour découvrir du patrimoine, pour découvrir des panoramas uniques sur le Briançonnais. Briançon, on est à proximité de Serre-Chevalier, 250 km de pistes de ski. En hiver, c'est le plus vaste domaine skiable, Serre-Cheux, de tout le département. Et il y a quelques 13 villages qui forment ce domaine, dont un qui s'appelle Montier-les-Bains. Dans ce village, on trouve 4 sources chaudes. La tradition thermale est donc très ancienne. Évidemment, ça remonte à l'époque romaine. Et il y a dans le saviez-vous du guide du routard des Alpes du Sud, une petite anecdote qui raconte qu'au XVIIIe siècle, un médecin et un apothicaire convaincus des vertus purgatives des eaux locales, eh bien, ça fait qu'ils ont construit un pavillon des buveurs en obligeant pratiquement les habitants du village à aller boire cette eau qui avait des vertus particulières. Et du coup, les habitants de Monnicier se sont retrouvés avec le surnom de tripe chaude.
Ça va pas à tout le monde. Hein.
Alors, ça va, c'est pas facile à porter.
Faut le voir chez soi.
Mais du coup, on reste dans le thème.
Ça se donne toujours un peu.
Voilà, bien sûr.
On va aller faire un tour dans le coin. D'ailleurs, on nous attend Jean-Luc Libaud. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Chef. Bonjour chef.
Bonjour.
Chef du restaurant Le Rustique à Briançon. On va parler un peu des spécialités de la région, hein, des spécialités de votre pays. Moi, je relève quand même que vous proposez 11 variétés, enfin en tout cas 11 préparations différentes de truites.
Ah oui, ça c'est vraiment ma spécialité. Les truites de pays, bien sûr, hein, des truites de 330 grammes vidées, donc ça fait des beaux petits bestiaux. Et les faire de 11 façons différentes, c'est une autre façon d'appréhender les truites.
Alors justement,
les 11,
on va pas faire les 11, mais en tout cas celle qui fonctionne le mieux, Calvados.
Et non, c'est la truite au coulis de poireau qui marche le mieux, bizarre. Après, suivi par l'orange.
Et c'est quoi un coulis de poireau?
C'est une fondue de poireau. Je fais réduire mon poireau, je le fais à l'étuvée. Après, je le fais compoter tout doucement avec un mini fumet de poisson, filé à la crème fraîche et le poivre.
Voilà, comme ça, vous avez la réponse.
Ça a l'air bon.
Je rêve d'une truite meunière, moi, là.
C'est bien aussi, ça.
C'est tellement beau.
La truite meunière, c'est très bon pour vraiment apprécier le goût de la truite au naturel.
Et une truite au bleu.
Ah ben c'est ce que j'allais dire. Moi, c'est la manière de préparer une truite la plus naturelle, je trouve, c'est au bleu.
Bien sûr. Alors, le problème de la truite au bleu, il faut la prendre tout de suite dans le vivier, qu'elle soit vivante, on la tue, on la cuit tout de suite. Voilà. Nous, on ne peut pas se permettre de faire ça n'ayant pas le vivier à côté.
Et on précise quand même que la truite au bleu n'a rien à voir avec une truite dans laquelle on aurait mis du roquefort ou des choses comme ça, quoi. Rien à voir. On est bien d'accord. Et on l'appelle truite au bleu pour une raison simple, chef.
Non, c'est qu'elles sont cuites tout de suite avec dans un bouillon, elles sont toutes.
Elles sont un peu bleutées du coup quand
Elles sont un peu bleutées quand vous les ressortez, quand vous mettez le vinaigre, quand vous mettez tout ce qu'il y a dedans, elles deviennent un peu bleutées.
Mais faut préciser que vous travaillez avec une pisciculture. Il y a un torrent qui passe dans la pisciculture.
Voilà.
Donc c'est de la truite d'élevage.
De l'élevage presque.
De luxe.
Presque naturel quoi.
J'adore l'idée de...
Ça reproduit le courant, en fait, c'est ça.
Exactement.
Et d'ailleurs, les gens où je travaille ont été médaillés d'or en truite fumée pendant des années.
Ah, ils sont où, alors? On peut parler d'eux?
À Châteauroux, bien sûr, à Châteauroux-les-Alpes. La pisciculture des écrins, et c'est vraiment quelque chose de fabuleux.
C'est-à-dire que si on se balade en montagne dans le coin aujourd'hui, par exemple, si on fait de la randonnée ou quoi, on peut passer chez eux, le particulier peut acheter de la truite?
Ah, bien sûr. Fantastique. Vous verrez la qualité, c'est dans une hygiène parfaite, c'est magnifique.
Il y a du poisson, il y a de la viande, et comme produit frais, viande des Hautes-Alpes, il y a du bœuf.
Ah bah oui, il y a du
bœuf. Et pas n'importe lequel.
Non. Et moi, je travaille qu'avec du bœuf des Hautes-Alpes, parce que ça me paraît complètement évident, quoi, parce que ce serait comme dommage d'aller acheter du bœuf ailleurs, alors qu'on a tout ce qu'il faut ici.
Ah oui.
Je travaille avec la marque Pâture-Alpes, enfin, c'est une appellation, c'est pas une marque, hein, pardon, c'est une appellation, c'est que du bœuf des Hautes-Alpes. Et pareil pour l'agneau. L'agneau Guy Légurant, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Et c'est à 30 km de chez nous, 40 km. Donc c'est, voilà, à cette époque-là, c'est pas mal, quoi.
Il fait comment niveau météo ce matin chez vous?
C'est un petit peu moyen. Je suis désolé de le dire. Normalement, on a 300 jours de soleil. Là, on va dire que c'est 300 et demi, quoi.
Oui, mais je pose la question parce que du coup, on peut même se lancer dans une raclette.
Ah oui, bien sûr, on peut faire des raclettes. Alors nous on a une raclette pareil qui est médaillée d'argent parce qu'il faudra y des bons produits.
Ah, c'est classe, ça.
Bah oui, on peut tout mettre quand c'est bon. Enfin, moi, il me semble. Après, nous, on n'a plus qu'à travailler avec notre façon, notre métier. Mais quand on achète déjà des bons produits, c'est pas mal, quoi.
Alors, votre gros succès, je dirais votre produit phare.
C'est la fondue.
Qui date pas d'hier, c'est la fondue.
Disons que nous, on n'a pas inventé la fondue au mori, attention. Hein. On a inventé notre préparation à nous, hein, qui est pour moi pas mal.
Mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je vous interromps parce que c'est important, ça.
Eh ben, on a inventé un prêt à l'emploi aussi, parce que tellement il y avait du succès, on a inventé un prêt à l'emploi pour pouvoir la faire chez vous. Je fais des salons, j'ai fait le salon d'agriculture, tout ça. Et on fait cuire des champignons et tout avec du porto, du vin blanc, puis mon petit secret de fabrication. Et une fois que c'est vraiment bien réduit, on monte la fondue comme une fondue traditionnelle.
Mon rêve, c'est...
que c'est un goût inimitable.
Mon rêve, c'est qu'un jour, un chef dans cette émission en direct réponde à cette question. Quel est votre secret de fabrication, chef?
Ah, j'adorerais vous répondre, vous ne pouvez même pas savoir.
Vous savez que vu le temps qu'il fait en ce moment à Paris, c'est une raclette, une fondue, ça m'irait très très bien, moi, ce soir.
Hein. Je crois bien.
J'ai l'air surpris.
Eh bien, allons-y.
Voilà. On va terminer pour vraiment définitivement mettre l'eau à la bouche à tout le monde. Brochette médiévale.
Alors là, c'est pareil. Avec souvent, beaucoup de gens trichent un peu sur les brochettes. Il y a plus de poivrons et de champignons que de viande. Nous, on met carrément 400 grammes de viande pure. 400 grammes de cette magnifique viande de Pâture-Alpes, et on la fait vraiment griller très très fort à 400 degrés, c'est-à-dire qu'il y a une marinade dessus, et après elle est croustillante autour et moelleuse à l'intérieur, c'est un régal. Quand vous la voyez arriver, vous dites je ne mangerai pas tout ça, et les gens ont fini au bout d'un quart d'heure parce que c'est trop bon.
Je comprends qu'elle s'appelle médiévale. D'ailleurs, à partir de maintenant, appelez-moi Enguerrand. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci d'être passé par RTL Vous Régale. Jean-Luc Libaud, chef du restaurant Le Rustique à Briançon depuis 32 ans maintenant. Autant vous dire que c'est une adresse incontournable. On vous souhaite une bonne journée.
Et moi, je vous remercie d'avoir parlé de la région comme ça.
Eh ben, on va continuer jusqu'à midi et demi. Restez avec nous.
Merci beaucoup.
On en a encore pour une heure chez vous. Merci. Louise, dans un instant, c'est le défi du jour.
C'est à mon
tour.
Pas
le défi frigo, mais les challenges.
Ouais.
Des messages de nos auditeurs. Il y a des montres RTL, des guides du routard Hachette à gagner tous les jours si vous lancez ces challenges à Louise. On vous en parle dans quelques minutes.
11h, 12h30. RTL vous régale. Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Elle n'a peur de rien et durant tout l'été, elle va vous le prouver dans RTL, vous régale. Louise Petit-Renaud va relever vos challenges les plus dingues. Céline est à Épinal.
Oui.
Elle s'adresse à vous directement. Elle vous dit « J'ai oublié mon riz sur le feu, du coup il est trop cuit ». Que faire, Louise?
Surtout ne pas le jeter. Alors pour retirer l'excès d'amidon d'un riz trop cuit, il faut le rincer à l'eau froide bien claire, l'égoutter et le faire réchauffer à feu doux. Vous allez voir que votre riz va reprendre la bonne cuisson.
Très bien.
Voilà Céline.
Pierre, à Nevers, comment savoir si mon huile de friture est à bonne température? Ça, c'est vrai que quand on n'a pas de thermostat ou de friteuse machin, ouais, c'est compliqué.
Hein. Surtout, c'est tellement dangereux. Donc, toujours faire bien attention. Hein.
Pardon?
Ne mettez pas le doigt.
Non, voilà, justement, faites extrêmement
attention.
Merci
Jean-Sébastien, vous êtes précieux dans ces moments-là.
Alors, il y a une petite astuce, mais pareil, vous éloignez toujours les enfants, tout ça, hein, de la gazinière ou de vos plaques. Il vous suffit de déposer un grain de maïs, et s'il éclate, ça veut dire que la température est bonne.
C'est tout simplement ça. Un morceau de pain sec aussi, ça fonctionne.
Et s'il éclate?
Vous voyez comment le pain réagit, c'est-à-dire que s'il se colore, s'il attrape une belle couleur dorée, c'est que l'huile est à bonne température.
Donc, surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Jean-Michel.
Non, mais
il se fera un plaisir.
Je peux
de
vous venir en aide. Je me dis, c'est votre première saison de radio,
et
Louise.
Vous vous sentez très concernée par ces petits challenges.
J'adore
hein.
ça, je vous mais assure. Oui. Je suis votre premier fan.
Généralement, de toute manière, quand on fait une friture, on a une pâte à friture, on a quelque chose qui sert
pour tester.
Donc, il suffit de tester avec un petit morceau aussi.
Écoutez, laissez-moi avec mon grain de maïs, si je vous laisse.
Je vais vous laisser avec du chou-fleur, par contre. Parce que Fabienne de La Roche-sur-Yon nous dit comment garder des aliments bien blancs. Comme du chou-fleur, par exemple.
Alors, c'est vrai que ça a tendance, pendant la cuisson, un petit peu à jaunir. Donc, l'astuce, Fabienne, c'est de mettre une cuillère de farine dans l'eau de cuisson. Mmh. Notamment, si vous faites un velouté de chou-fleur, vous voulez que ce soit bien blanc, bien beau, eh bien, vous mettez une cuillère de farine.
Ça marche pour les artichauts aussi, ça.
Voilà, je vous remercie.
Non, mais... Je peux pas m'en empêcher, j'en sais pas.
Il reste bien blanc, les artichauts, faut mettre de la farine.
Non, mais pour qu'il reste bien vert. Et c'est bien vert.
Ah, moi je mets du citron.
Citron, du vinaigre.
Oui. Il y a des bas.
Ça marche avec de la farine aussi.
Oui.
Voilà. Vous avez des trucs à nous donner, vous voulez vous aussi,
mais
vous êtes
oui,
quelque part en France en train d'écouter cette histoire. Vous avez un avis sur la question 3210, Christina vous attend. On sera ravis de vous accueillir au standard. Pour lancer des challenges à Louise, vous envoyez par SMS le mot régal, suivi de votre message au 64 900. Dans un instant, plus qu'un ambassadeur, une surprise dans RTL vous régale. On va parler de vin, mais de vin de montagne. Yeah, you wanna know, just like you know, whoa, you just ought to know, yeah.
You wanna know? Ooh. Ooh. end the show. Act like you don't, and you won't.
So we set the stage for you to see that dancing makes you really wanna be. Yeah.
Act Like You Know, en 1982, le Fat Larry's Band. Ils y allaient au pâté de campagne. Je peux vous dire que là, ils comptaient pas les points Weight Watchers à l'époque. Ils portaient bien leur nom. C'est RTL vous régale, en direct.
RTL vous régale. 11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
Nous sommes donc dans les Hautes-Alpes ce matin jusqu'à midi et demi et nous allons même vous y emmener en direct dans RTL vous régale avec Coralie Gendre qui se trouve sur place. Bonjour Coralie.
Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde.
Et
bonjour.
Bienvenue dans RTL vous régale. Coralie qui est responsable et animatrice de la Maison du Vigneron et du Musée Viticole à Remolon. C'est une petite commune à 20 km au sud de Gap. Coralie, on va être honnête, hein, quand on parle des Hautes-Alpes, c'est vrai, c'est pas le vin qui nous vient le plus rapidement à l'esprit.
Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça que c'est l'occasion de le mettre à l'honneur.
Voilà, et donc vous êtes animatrice et responsable de ce qu'on peut considérer comme l'unique musée viticole des Hautes-Alpes, qui est tout récent, hein, ça existe depuis à peine un an.
Oui, c'est ça, tout à fait, il a ouvert ses portes l'année dernière, et on est très heureux d'accueillir les visiteurs qui ne cessent d'être surpris par la qualité de nos vins.
Alors, ils sont surpris, parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas forcément très bien. Il faut préciser qu'il n'y a pas de grand domaine viticole chez vous, mais il y a plein de petits terrains, plein de petites parcelles qu'on retrouve un peu partout dans la région et qui commencent à faire de très bonnes choses.
Oui, c'est ça. En fait, on a une surface étendue sur 130 hectares de vignes en production. Alors, on fait office de micro-vignobles hein, à l'échelle nationale, mais tous ces petits terrains morcelés ont su donner de la qualité au terroir et au goût de nos vins au fur et à mesure, puisque maintenant, ils sont labellisés IGP.
Alors, évidemment, on se doute que ce sont des cépages qui sont adaptés au climat rude de la montagne.
Vous travaillez quoi ? C'est quel cépage on trouve, en fait ?
Alors, on en a trois, en fait, qui sont plutôt typiques ou du moins bien adaptés, mais dont deux qui sont autochtones. Ouais. Donc, les cépages autochtones sont ceux qui sont endémiques, qui sont natifs des Hautes-Alpes, et on en a deux. On en a un qui s'appelle le Mollard et l'Espanenque.
D'accord. Et ça donne des vins qui ont quelle particularité, quelle singularité ?
Alors, ce sont des vins donc typiques de montagne, donc c'est vrai que on les boit plutôt... On les boit plutôt dans l'année pour les vins rosés, pour les vins blancs, etc. Mais certains domaines arrivent à faire des vins de garde, comme des grands crus.
Ah oui, carrément ?
Voilà.
Avec des vendanges qui n'ont pas lieu au même moment que les vendanges traditionnelles de la vallée hein.
Alors forcément, on est un petit peu en décalé, un petit peu plus tard dans la saison, puisque les cépages que nous avons sur le territoire ont un débourrement tardif. Donc, c'est-à-dire qu'ils commencent à bourgeonner après les gelées, ils sont protégés pendant les gelées, et donc du coup, les vendanges s'en trouvent décalées également.
C'est incroyable, parce qu'à l'heure où on parle aujourd'hui du réchauffement climatique, etc., on se rend compte qu'on fait de plus en plus de vins et de bons vins dans les pays du Nord, et c'est vrai qu'on commence aussi à faire des vins très intéressants en montagne, en altitude. La Maison du Vigneron, c'est un musée, c'est trois espaces, c'est une salle dédiée à l'histoire et à l'évolution de la viticulture locale, c'est une cave authentique. Vous avez des outils, des objets qui expliquent le métier du viticulteur de montagne. Et puis, c'est un espace de dégustation quand même. On va pas se quitter comme ça.
C'est la cerise sur le gâteau. À la fin des visites guidées, je propose la dégustation des vins parce que nous avons 9 viticulteurs partenaires pour le musée. Et ça permet aux visiteurs de découvrir nos vins locaux et de se rendre ensuite sur place pour aller à leur rencontre.
Et ben voilà. Et nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est avoir quelques petites adresses des régionaux de l'étape. Vous nous conseilleriez quoi pour déjeuner ce midi du côté de chez vous ?
Alors du côté de chez nous, pour avoir une belle vue et manger de bons plats traditionnels, je vous conseille le balcon de Théus. Donc c'est un bistrot de pays qui est sur la commune de Théus et qui domine la vallée de la Moyenne Durance.
D'accord, donc produits locaux, produits de terroir, bistrot de pays.
Alors tout à fait, ça fait écho à ce que vous racontiez au début de l'émission sur les tourtons, sur les ravioles, etc. Et vous pourrez en trouver dans ce restaurant-là.
Il paraît qu'on fait aussi le fameux gratin dont Louise parlait, le gratin d'oreille d'âne.
D'oreille d'âne, oui.
Oui, voilà, on peut le trouver également, ça fait partie des spécialités, tout à fait. Alors, c'est moins de 30 cm, hein, une feuille d'oreille.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Comme ça, vous savez, Louise.
J'ai dit 20. Merci. Voilà.
Coralie, en préparant cette émission, j'ai retrouvé une interview d'Olivier Poussier, qui est quand même meilleur sommelier du monde, et qui parle de ce cépage dont, que vous avez évoqué, le Mollard, qui est un élément de la diversité variétale fondamentale pour lutter contre le réchauffement climatique, et que justement, avoir une pluralité comme ça de cépages et retrouver les cépages anciens sera un des éléments pour lutter contre le réchauffement climatique. Il en est, vous, la vigne en est où aujourd'hui dans les Hautes-Alpes justement? C'est en avance, c'est en retard, ça se situe comment, pour nous donner une idée justement du drame dans lequel on est?
Non, alors justement, pour la viticulture, le réchauffement climatique est un très bon facteur, puisque nous, les cépages s'adaptent à l'étendue et à la hausse des températures, ce qui n'est que bon pour les viticulteurs, finalement.
Ça, c'est l'important de ces cépages endémiques qui sont adaptés à un terroir et qui eux-mêmes s'adaptent aux conditions extérieures.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ça, c'est si on veut vraiment être positif, hein. Uniquement sur la viticulture, je précise quand même. Coralie Gendre.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut goûter un vrai terroir et non pas un cépage comme le Sauvignon qui peut se trouver partout dans le monde aujourd'hui. Là, c'est des cépages que vous ne trouvez qu'à un seul endroit et c'est vraiment l'expression d'un terroir.
Allez donc rendre visite à Coralie, responsable et animatrice de la Maison du Vigneron et du Musée Viticole à Remolon, pas loin au sud de Gap. Très belle journée dans vos Alpes et à bientôt. Bel été à vous.
Merci.
Merci. Merci beaucoup.
Le grand jeu RTL de l'été dans un instant.
11h, 12h30, RTL vous régale.
11h, 12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka.
C'est l'heure du grand jeu RTL de l'été, il est midi moins 10, voici venir Madeleine. Bonjour Madeleine. Est-ce qu'elle est là, Madeleine?
Bonjour,
je pense qu'elle ne devrait pas être très loin.
Elle est là.
Elle est à Paris, donc ça devrait être possible. Comment ça va, Madeleine?
Très bien, et vous?
Bienvenue sur RTL, j'espère que vous passez un très bon début d'été. Faut le dire vite, début d'été, quand on est à Paris. Hein.
Oui.
Ah, ça va aujourd'hui.
Ça commence à aller.
Une bonne fin d'hiver.
Voilà, ça progresse.
J'ai envie de
pluie, moi. Ça progresse. Ça n'embête personne qu'on parle de raclette, hein, vous avez remarqué. Madeleine, pour le grand jeu RTL de l'été, vous allez avoir le choix pour tenter de gagner deux somptueux cadeaux, que sont un MacBook Air ou un week-end de détente et de remise en forme dans une des Thalasso Valdis Resort. Vous allez avoir le choix de gagner ce cadeau en jouant avec Jade ou avec Bérénice Bourgueil.
Je vais prendre Bérénice.
Alors Bérénice, que vous écoutiez tout à l'heure dans le grand quiz aux côtés de Stéphane Rothenberg, espérons que ce soit le bon choix.
Et bravo, bien joué. RTL prend soin de vous et vous offre un week-end en Thalasso avec Valdis Resort.
Et c'est gagné, ça c'est génial.
Bravo Madeleine.
Merci beaucoup.
Un week-end dans une des Thalasso Valdis Resort, vous allez prendre le temps de penser à vous, Madeleine.
Merci RTL.
Est-ce que cette période qu'on vient de vivre vous a stressé? Ben oui, un peu, j'imagine, comme tout le monde. Comme tout le monde. 8 soins de Thalasso, des soins de remise en forme, des massages. C'est un coffret cadeau qui va vous permettre d'accéder au choix à l'un des 4 Valdis Resorts en France. Hôtel Thalasso et Spa, Roscoff ou Douarnenez en Bretagne, Pornichet en Loire-Atlantique ou Saint-Jean-de-Mont en Vendée pour retrouver votre vitalité. Allez donc consulter le site thalasso.com. On vous souhaite un bel été et merci d'avoir joué avec nous, Madeleine.
Merci beaucoup.
Prochain rendez-vous du grand jeu RTL de l'été tout à l'heure dans les grosses têtes. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210, 50 centimes la minute, ou en envoyant RTL par SMS au 74 900, 75 centimes d'euros par SMS. Je vous souhaite bonne chance. C'est l'histoire d'un homme extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a adoré ça. On est en 93, ils arrivent, il y a JP, il y a son groupe. On va retrouver les innocents dans RTL. Vous régale.
Sans connaître les raisons qui ont poussé cet homme à vivre dans une autre vie. Comme quelqu'un de toujours poli, qu'il soit heureux ou qu'il soit triste, sans donner d'importance à la chance de voir cet homme ce soir qui rentre un peu moins tard. Ses enfants aiment leur père avec une impatience qui le laissera vieillir juste après leur enfance. Il tourne approche un autre ciel. On se souviendra de ceux qui commettent un crime. Un jour, de tous ces chasseurs primes. Et puis, d'oublier la vie d'un homme extraordinaire. Oh, oh. Sans l'espoir d'apprendre à leur apprendre à ne pas compter les heures. Qui s'enroulent et qui meurent, que leur dire, viennent sur terre juste pour y répandre un peu d'amour et quelques cendres. On se souvient.
Un homme extraordinaire, Jean-Sébastien Petit-Demange, qui nous emmène au marché, dans un instant, pour le beau marché d'RTL vous régale. C'était Les Innocents sur RTL.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
On est en montagne aujourd'hui et nous n'allons pas faire exception à la règle, même si nous avons pris de l'altitude, on va quand même filer sur les marchés, parce que les marchés de montagne sont intéressants.
Oui, et puis les marchés, c'est quand même l'une des formes de commerce les plus anciennes, les marchés de plein air, c'est une manière de... C'est une modalité commerciale qui est moi que j'aime beaucoup. On se rencontre vraiment, je ne cesserai de le répéter pendant tout l'été. Et c'est surtout, on pense que les marchés c'est une spécificité française, alors que pas du tout. C'est même beaucoup plus développé, j'allais dire, à l'étranger que ça ne l'est aujourd'hui. En France, même si peut-être le seul bienfait de cette pandémie dans laquelle nous sommes plongés depuis plus d'un an, c'est justement d'avoir retrouvé la richesse de nos marchés de plein vent, de nos halles, des marchés couverts qu'on a en France. Mais il suffit d'aller... Moi, je peux vous dire que ça fait plus de 25 ans qu'aux États-Unis, dans les grandes villes, il y a des marchés qui sont loin d'être ridicules par rapport aux nôtres. Et notamment, quand vous allez à Gap, par exemple. Gap, c'est la première ville des Hautes-Alpes. C'est un territoire absolument exceptionnel. On est aux marges du Gap. Les marchés du Gap-Ancet sont une occasion unique de savourer les pommes des vergers de la vallée de la Durance, les tomes, la charcuterie de montagne du Dévolu et du Val-Gaudemar. On parlait des tourtons. On va pouvoir déguster les tourtons. Il y a également des ravioles du Champsaur. Ça, on en a. C'est toujours à base de pommes de terre, mais ces ravioles se rapprochent un peu des gnocchis italiens. Hein. On est frontalier, bien évidemment. Et puis, le marché du samedi à Gap, qui a lieu sur la place Lorraine et la place aux Herbes, c'est l'un des plus grands, sinon le plus important marché du département. Vous avez toutes les rues que commerçante du centre historique qui se transforme en marché de plein vent. C'est des débauches de fruits, de légumes, de charcuterie, de miel également. Il y a des miels absolument magnifiques qu'on fait dans les Hautes-Alpes. Et on va se régaler là-bas avec, bien évidemment, des oreilles d'âne de moins de 30 cm. On a bien compris ça. Il y a un autre petit marché qui est tout à fait remarquable. C'est le marché de Chorges, qui est souvent cité comme un des plus beaux marchés des Hautes-Alpes. On est à une heure de Serre-Chevalier et on trouve là-bas des petits producteurs locaux qui viennent vendre leurs produits. C'est absolument magnifique.
Je ne sais pas ce qu'en pense Nadine qui nous attend à Saint-Brieuc pour le défi frigo. Je ne sais pas si vous avez déjà, Nadine, passé des vacances d'été à la montagne, par exemple.
Non, pas encore.
Eh bien, c'est un tort. Et j'espère qu'on vous aura, depuis 11h ce matin, donné l'envie de tenter l'aventure un de ces jours.
Tout à fait.
Parce que c'est beau, la montagne, l'été aussi. Nadine, bienvenue sur RTL pour le défi frigo que vous allez nous proposer dans un instant. En tout cas, avec le produit du jour, en ce jeudi, le produit sera...
C'est le melon.
Ils étaient suspendus à vos lèvres, hein, tous les deux, Louise et Jean-Seb.
Le melon.
Bon, vous allez choper le melon tous les deux pour deux recettes originales dans un instant. Il y a match. Vous ne bougez pas, vous écoutez RTL. On revient dans un instant, il est midi. Les infos vous sont présentées par Sébastien Rouxel.
Et d'abord, cette perquisition sur le Tour de France. L'équipe Bahrain Victorious a reçu cette nuit la visite de 25 gendarmes dans son hôtel à Pau. Les chambres de l'encadrement et celles des coureurs ont été fouillées. Les forces de l'ordre ont saisi du matériel, des ordinateurs notamment, mais personne n'a été placé en garde à vue. Sur cette édition, l'équipe a été victorieuse à deux reprises, lors de la 7e étape avec Mohoric, puis le lendemain avec Tuns. Elle possède également le maillot à poids, toujours sur les épaules de Woodpools. Le Tour de France sur les routes à présent et le départ de la 18e étape dans un peu moins de deux heures, la dernière dans les Pyrénées, près de 130 km entre Pau et Luzardiden. Le maillot jaune Tadej Pogacar peut justement remporter le maillot à poids du meilleur grimpeur. Notez qu'Emmanuel Macron sera présent sur le Tour cet après-midi. On vous fait vivre l'étape sur RTL toutes les demi-heures. Le bilan des violentes intempéries s'alourdit encore en Allemagne. Les pluies diluviennes et les inondations ont fait au moins 19 morts dans l'ouest du pays. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues en Rhénanie-Palatinat où 6 maisons au bord de l'eau se sont effondrées. D'autres menacent de s'écrouler. 200 000 foyers sont toujours privés d'électricité. En Belgique, dans les régions voisines de l'Allemagne, 2 personnes ont été tuées par ces mêmes intempéries. Une grande partie du sud et de l'est du pays est sous l'eau. Le trafic ferroviaire est interrompu, notamment sur l'axe Charleroi-Namur-Liège. En France, 11 départements du nord-est sont toujours en vigilance orange. Aucun train ne circule entre la gare de Thionville et Luxembourg. La circulation fluviale sur le Rhin est interrompue. Cet après-midi, les pluies abondantes vont persister dans l'est, selon Météo France. Des crues sont attendues dans 7 départements, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, les Ardennes, la Meuse et la Marne. Partout ailleurs, le temps sera plus sec, avec même quelques éclaircies et du soleil dans l'ouest. Côté température, cet après-midi, comptez 22 à Lille, 24 à Bordeaux, 25 à Paris et 30 à Montpellier. Si vous êtes en France, si vous êtes en vacances, en Espagne ou au Portugal, sachez qu'à partir de ce week-end, il vous faudra présenter un test de moins de 24 heures pour rentrer. Si vous n'êtes pas vacciné, du moins, c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, qui l'annonce ce matin. Il avait conseillé la semaine dernière de ne pas se rendre dans ces deux pays durement frappés par le variant Delta. Et puis, on apprend ce matin la disparition de la comédienne Renée d'Orléac, la mère de Catherine Deneuve. Renée Simoneau, c'était son nom de scène, fut l'une des premières en France à se lancer dans les doublages, prêtant sa voix à des actrices comme Judy Garland ou Esther Williams. Elle s'est éteinte à l'âge de 109 ans. Les courses, elles ont lieu en nocturne à Enghien. Je vous donne les pronostics de Jordan Philippi. Le 2, le 15, le 5, le 10, le 3, le 11 et le 4, sa dernière minute. C'est le numéro 10, Vincent Ferme, RTL. Midi et 3 minutes, on vous retrouve pour la suite de RTL vous régale, Jean-Michel Zeka.
Merci Sébastien, et c'est l'heure du défi frigo d'RTL vous régale, à tout de suite.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Le match de l'été entre Louise Petit-Renaud et Jean-Sébastien Petit-Demange. Jean-Seb qui va démarrer ce matin, enfin ce midi. C'est vous qui allez vous y coller, une recette avec du melon. Est-ce qu'on cuisine le melon? On n'a pas précisé de quel melon il s'agissait.
Melon français.
C'est du charentais, hein, Nadine?
C'est du charentais, oui.
D'accord. On a du melon charentais. Oui. Jean-Sébastien, c'est l'heure, à midi 4, de nous faire rêver.
Et de faire rêver Nadine, surtout.
Ah, parlez. Ne la décevez pas.
Écoutez, vous allez faire un truc que j'ai découvert ça dans un pique-nique que m'avait préparé un pote chef de l'ouest de la France. Vous allez faire une quiche au melon. C'est un truc totalement... c'est super bon. Vous allez voir. Prenez une pâte brisée. Vous la faites pré-cuire dans un moule. Vous mettez une feuille de papier sulfurisé. Vous recouvrez avec des cailloux. Ce que vous, on dit, vous faites cuire à blanc votre pâte brisée. À peine 10 minutes, juste pour qu'elle soit un peu solidifiée. Prenez des tranches de melon que vous coupez assez épaisses. Vous allez les poêler dans un peu de beurre, juste pour les colorer caramélisés. Ensuite, vous les essuyez et vous les poivrez généreusement. Vous disposez ces tranches de melon dans votre pâte qui a été cuite à blanc et vous alternez avec soit du jambon cru, soit des tranches de magret de canard fumées. Vous allez battre des œufs avec un peu de crème, du sel, du poivre. Vous faites une mayenne et vous allez recouvrir tout cela avec cet appareil. Vous allez recouvrir vos melons et votre jambon ou votre magret. Vous mettez ça au four à 180 degrés pendant 30 minutes et vous la servez froide. Et vous allez voir, c'est avec une petite salade, vous allez voir, c'est ultime parce que c'est très été, c'est très frais et c'est fin délicieux, c'est très original.
C'est très rare surtout. quiche au melon. Non, c'est vrai. Après, je me fais l'avocat du diable. Je
suis un peu non, vous ne faites pas l'avocat du diable. Vous foutez de Marseille.
Pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas du tout le genre de la maison.
Je pense que je vais arrêter cette. Je suis stigmatisé.
Bon, Nadine.
Oui, c'est une très bonne recette que je vais certainement tenter.
Merci. Oui, mais attendez, parce que.
J'attends l'autre recette.
J'imagine, Louise est en face. Que faites-vous de ce melon charentais ?
Alors, je vous propose une soupe glacée de melon grillé. Nadine, vous allez couper votre melon en deux. La première moitié, vous allez enlever la peau et vous allez faire griller au barbecue ou si vous n'en avez pas à la poêle, ce melon. Pas longtemps, juste pour qu'il ait ce petit goût grillé. Vous allez le mixer pour en faire une soupe et monter votre soupe à l'huile d'olive. Vous réservez au frais. L'autre moitié, vous allez tailler votre melon en brunoise, c'est-à-dire en petits dés de taille identique et les faire mariner dans un peu de vinaigre de bagnoles et d'huile d'olive. Vous y êtes là, Nadine ?
Oui, je vous suis.
Vous allez prendre une assiette creuse, vous allez verser votre soupe glacée de melon grillé au fond, puis disposez vos petites brunoises de melon marinées et déposez par-dessus des tranches de magret de canard fumé extrêmement fines.
Elle attaque sur le terrain du magret, c'est moche.
Avec des feuilles de basilic.
Bon, une soupe glacée de melon.
Grillée.
Et une quiche au melon. Bon, après, on l'aura bien cherché. C'est-à-dire qu'arriver avec du melon pour une recette cuisinée, c'est jamais évident.
Donc on est-à-dire l'avantage de ces recettes, c'est quand vous avez un melon qui est pas, que vous ouvrez et qui n'a pas forcément de goût, parce que ça peut encore arriver de temps en temps. Si vous avez des melons qui sont hyper sucrés, hyper beaux, ça ne sert à rien de les cuisiner. Ouais. En revanche, quand on n'est pas sûr de son... Ça permet de sauver...
Je suis bien d'accord. Cuisine anti-gaspi.
Exactement.
On est d'accord. Bon, on a, comme je le dis, Jean-Seb, du melon.
Du melon.
Moi, personnellement, j'adore les blonds. Quand on parle d'huîtres.
Oh là là.
Oui, parce que là je me Nadine, dis, oui, non, mais... Calmez-vous.
Le choix est très très difficile parce que c'est vrai que je ne savais pas comment cuisiner mon melon à chaud. Mais c'est vrai que la recette de melon à froid me plaît bien aussi. Donc,
Alors il va falloir prendre une décision à chaud ou à froid. C'est selon.
Bon, je vais prendre à chaud.
C'est-à-dire la recette de Jean-Seb ?
Oui, la recette de Jean-Seb.
Voilà. Il est passé, avec voilà. Une quiche au melon.
Non.
Et
moi, je vous en remercie infiniment.
Ah mais non, mais c'était bien ma soupe glacée de melon grillé.
Ben oui, mais ça ne suffit pas.
Je vais la tenter, mais...
Non mais...
C'est vrai que le magret me plaisait bien aussi, donc c'est vrai qu'il y avait deux recettes...
Vous pouvez encore changer d'avis, Nadine.
Ah non, arrêtez-le, je vous en prie. Non mais il y avait du magret, dans la possibilité de magret, dans les deux recettes, de toute façon.
Voilà.
Autrement, je fais moitié-moitié.
Non.
Ce qui est dit est dit. Moi, je demande.
C'est une victoire
vidéo.
Non, mais il n'y a pas besoin de la VAR. C'est une victoire incontestable de Jean-Sébastien ce matin. Je ne l'aurais pas signé. La quiche au melon, je vous assure, je ne l'aurais pas signé. Mais c'est bien joué. Grâce à ça, vous allez gagner une montre RTL. Vous allez gagner un guide du routard de votre choix d'édition Hachette. Et on va mettre le prénom de Nadine dans le chapeau pour le tirage au sort de demain. Vous savez que cette semaine, on joue pour un week-end de deux nuits à l'abbaye de Talloire. Sublime hôtel 4 étoiles au bord du lac d'Annecy, le lac le plus pur d'Europe. Vous allez peut-être dîner sous les terrasses ombragées du restaurant gastronomique de l'abbaye de Talloire. C'est là-bas que le chef Christophe Ledigol compose pour vous une balade culinaire au goût, aux couleurs et aux odeurs des produits de cette région d'Annecy. Je vous dis bonne chance, Nadine.
Merci beaucoup.
Tirage au sort demain. Si on vous appelle, c'est que ça sent bon le melon. Le défi frigo d'RTL vous régale, midi tous les jours. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eyes. Extrait de la compilation Les Artistes RTL 2021, 40 tubes réunis sur ce double CD. La bande originale parfaite de votre été avec RTL. Save Your Tears, c'était The Weeknd.
Restez bien avec nous. RTL vous régale, revient tout jusqu'à 12h30. RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
Et vous allez vite comprendre, en nous suivant tout l'été, que nous allons devenir vos plus précieux amis. si vous êtes en villégiature un peu partout en France, car quelle que soit la région de vos futures vacances, ou même si vous y êtes, nous allons vous distiller nos petits conseils d'amis tous les jours, juste aux alentours de 12h15. Louise et Jean-Sébastien, nous sommes dans les Hautes-Alpes. Louise,
oui.
On ne dira jamais assez de bien de ces pommes des Alpes de Haute-Durance.
Mais oui, après avoir dégusté des tourtons, des oreilles d'âne, quoi de mieux qu'une bonne pomme des Alpes de Haute-Durance? Alors c'est une pomme qui détient une AOP, appellation d'origine protégée. Il n'y a que 10 fruits en France qui détiennent ce label. Elle en fait partie. Sa qualité est forcément liée au terroir parce qu'il paraît que dans ces Hautes-Alpes, il y a un ensoleillement important avec 300 jours de soleil par an.
On le disait tout à l'heure, oui.
Bah oui, 300 jours, on l'a pas dit les 300. Ce qui favorise la photosynthèse des feuilles, ce qui permet d'augmenter le taux de sucre des fruits. Et là où la nuit joue un rôle très important, c'est parce que la fraîcheur des nuits préserve la saveur des fruits et ce qui apporte ce croquant remarquable à cette pomme.
C'est ce qu'il en fait des pommes, des Alpes, Jean-Seb. Ben des quiches.
Aussi. Alors, c'est pareil, puisque vous me donnez la parole et que je ne l'ai pas demandé.
Parce que j'y consens.
C'est un peu comme la petite Venise du Nord, ce coup des 300 jours de soleil par an, qui est quand même un gros argument touristique. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il y a 300 jours de beau temps 24 heures sur 24.
Hein. Ça veut dire qu'on voit le soleil 300 jours par an.
Ça veut dire que
au moins quelques minutes.
300 jours par an, on voit le soleil au moins une heure par jour.
Disons qu'on est sûr qu'il se lève au moins 300 fois.
Voilà. Bon, c'est pas pour ça qu'il fait pas beau. Mais c'est quand même, c'est l'argument touristique qu'on retrouve à peu près partout en France, hein, aujourd'hui. Et il faudrait que les agences touristiques se calment un peu et qu'ils cherchent autre chose comme argument marketing. Oh.
Comme disait l'autre, dans les Hautes-Alpes, il y a de la pomme, mais pas que.
Mais pas que, il y a de la poire aussi.
Il y a de la poire aussi.
Il y a de la poire. Et il y a notamment deux variétés de poire, la poire crémésine et la poire martin sec, qui sont exactement, qui ont la même histoire que les cépages du vin dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des poires endémiques, des variétés très anciennes, qui se sont épanouies dans ces Alpes du Sud, et qui sont extrêmement prisés par les confiseurs, parce que leur texture, leur saveur fait qu'elles sont idéal pour les cuire et pour les confire. Ça remonte très loin, puisqu'on raconte que François Ier a goûté ses poires quand il est revenu d'Italie après la campagne de Marignan en 1515, et il a apprécié cette poire qu'on lui a servie en dessert confite, et ça fait partie de ses petites spécialités du terroir, comme le moutounesso.
Alors ça, c'est un truc qu'on connaît mal, je vous avoue que j'en avais pas vraiment entendu parler.
Ben oui.
On dirait une charcuterie corse.
Et ben c'est à peu près ça, mais c'est une charcuterie provençale, et en fait c'est de la viande d'agneau qui est étirée et séchée. Alors on l'a, elle est juste salée, pressée, frottée en saumure pendant 3-4 jours. Ensuite on emballe cette viande d'agneau dans des sacs de jute. On l'a fait sécher, et c'est les bergers qui faisaient ça à l'origine dans les alpages l'été. Et en fait, après un bon mois de séchage, on fume cette viande et ça donne un truc absolument hallucinant.
Mais qu'on tranche finement.
Bien sûr, et je peux vous dire que sur une raclette, c'est une tuerie, parce que c'est une viande qui est pleine de goût. Et sur une raclette,
j'ai pas de mal à l'imaginer, ouais. Effectivement. Ah bah, évidemment, dans les montagnes, des charcuteries de fous furieux.
Alors, la saucisse au chou des Hautes-Alpes, c'est une saucisse fraîche qu'on trouve de septembre à mai chez les bouchers. Alors c'est dans toutes les Alpes, mais l'origine de la saucisse au chou se trouve du côté de Briançon, et à l'origine c'est une saucisse qui est composée d'abats de veau, de chair de porc, de chou. C'est pareil, avec des pommes de terre en robe des champs, que vous cuisiez cette saucisse à l'eau ou au four, c'est le plat du dimanche soir par excellence. Mmh. C'est bête comme chou. Et c'est formidable.
On ne serait pas RTL vous régale si on ne rapportait pas du fromage des montagnes.
Alors au niveau fromage, vous avez le bleu du Queyras, qui est un persillé au lait de vache à l'origine, qui remonte au 19e, inspiré clairement du Roquefort aveyronnais, mais aujourd'hui, on le fait dans le Queyras avec du lait de vache. C'est un bleu qui est extrêmement onctueux, qui est un persillé bleu-gris, qui est très doux. Vous avez Ça c'est où? Vous avez le champoléon. C'est un fromage originaire du Champsaur qui est surnommé le fromage aux trois laits puisqu'il est fait avec du lait de vache, de chèvre et de brebis. Absolument. Il se présente en meule. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'il a une particularité d'avoir la tome qui fait entre 1 et 2 kilos et striée au milieu avec une raie bleue parce qu'en fait on fait cette tome avec deux traites. Et donc, pour protéger le premier cahier, on met de la cendre et on recouvre ce premier cahier de la deuxième traite. Et du coup, ça donne... C'est un peu comme le morbier, vous voyez.
Ouais. Je crois que j'en ai déjà goûté. C'est le truc qu'ils font avec de la menthe aussi, parfois.
Alors, ça, y a parfois, on affine ce fromage sur de la paille de seigle qu'on mélange avec des feuilles de menthe.
Louise !
Oui ?
Cette petite plante, aussi vivace que vous...
Le genépi, ah, ouais. J'aimerais que vous m'associez au genépi. Mais oui, c'est une petite plante emblématique des Hautes-Alpes. Elle est, comme vous le dites, vivace, parce qu'elle pousse à très haute altitude, là où normalement il n'y a pas de vie végétale, car ce sont des sommets, c'est très raide, et il y a des neiges éternelles, et cette plante, eh bien, elle est bien là-bas. La tradition recommande de récolter ces plantes en juillet et de les faire macérer fraîches dans de l'alcool et du sucre.
C'est bien.
Le fameux genépi. Mais alors attention, parce que cette plante est protégée dans les Hautes-Alpes, la cueillette est autorisée et limitée à 100 brins par personne.
Et c'est bien.
Donc,
et c'est bien.
Et c'est très bien. C'est et très... heureusement. Donc pas un de plus. On
D'accord,
respecte.
Très bien.
Puis il y a du miel.
Ah ben, et quel miel ?
Voilà, je vous le disais tout à l'heure, il y a des miels absolument fabuleux.
Alors on va enfiler nos costumes d'apiculteurs.
Voilà, hein, on va aller David Monet.
Faut être très prudent quand même, on va se protéger. Comment ça va, David ?
Ça va très bien et vous ?
Bonjour, bienvenue sur RTL. David Monet, vous êtes apiculteur chez Monet et Fils à Châteauvillevieille. Alors vous faites du miel depuis 1985, on s'est dit on va appeler David Monet pour qu'il nous en parle. C'est la troisième génération dans la famille. Votre père et votre grand-père faisaient du miel avant vous. Qu'est-ce qu'il a de particulier le miel de votre région ?
Alors nous, le miel qu'on produit donc dans le parc naturel régional du Queyras, il a la particularité d'être d'une pureté... absolument parfaite, parce que bon, à cette altitude on ne trouve pas du tout de traitement et on n'a vraiment que de la fleur sauvage. Donc voilà, c'est un miel qui est très riche en goût de par sa diversité de nectar, donc avec toutes les fleurs qu'on trouve dans le parc du Queyras.
Alors justement, on y trouve quoi ? De la lavande ? On en parlait tout à l'heure.
Alors non, la lavande c'est plus bas, mais nous ici on trouve tout ce qui est fleurs de montagne, donc en début de saison le pissenlit, après tout ce qui est les sainfoins, les épilobes, les rhododendrons, voilà, tout ce qui est les framboisiers, les fraisiers sauvages, tout ce qu'on trouve voilà à partir de 1300 mètres d'altitude.
D'accord, vous faites des bonbons aussi, on dit que vous faites des bonbons
exactement.
Au miel.
Ouais, exactement, en fait on est confiseur également, on a une petite fabrique de bonbons avec des machines artisanales, donc on cuit le miel, on le façonne, on fait des bonbons avec différents parfums, notamment genépi, propolis, mélèze, avec des extraits assez, assez locaux.
Et c'est bon pour la voix, quand on a mal à
Exactement.
La gorge. C'est un bon remède.
Exactement. Le Merci. Miel et la propolis, il n'y a rien de mieux.
C'est conseillé par le docteur Petit Renault, alors franchement là... Dites-moi, il y a un truc que j'adore, c'est la glace au miel.
Ouais. Alors nous, on a lancé cet été donc une gamme de glace au miel en partenariat avec un artisan glacier du coin. Et donc c'est vrai que voilà, c'est un de nos nouveaux produits de cette année et qu'on essaye de distribuer dans les commerces de proximité, restaurants, hôtels, pour diversifier un peu la gamme de.
Et c'est
de
pas trop sucré ?
Non, parce que du coup, là, le seul ajout, il n'y a pas d'ajout de sucre, si ce n'est le miel. Donc, ça, après, on essaye de faire avec des miels qui ont un parfum un peu différent. On propose plusieurs sortes de glace. Donc,
David, juste un mot pour terminer. Le prix d'un pot de miel, chez vous, on parle de miel de haute montagne ?
Alors, c'est à peu près dans les 13 euros, grosso modo.
Voilà, et donc, consommer du miel... préserver les abeilles. Ça paraît idiot, hein, comme ça, à brûle pour point, mais c'est vrai, c'est un marqueur important de la qualité, bien sûr, de la qualité de la nature et de vos montagnes. Dieu sait si ces petites bêtes sont importantes et si elles traduisent beaucoup de choses. Merci David d'être passé par chez nous.
Merci David.
Merci à vous, bonne journée.
L'apiculture Monet et Fils à Châteauvillevieille. Dans un instant, le petit pas de côté de Jean-Seb. On va passer la frontière du coup ?
Oui.
On va vers l'Italie ?
Il y a des chances.
On en parle dans quelques minutes dans RTL Vauréal. À tout de suite.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
On vous le disait, le petit pas de côté de Jean-Seb va nous emmener au-delà de la frontière ce matin. Il faut se souvenir que Turin est à quoi ?
100 kilomètres de Briançon. Voilà. Et c'est la grande ville italienne la plus proche de la France. Alors, on ne sait plus que la capitale actuelle du Piémont a été brièvement la capitale de la toute jeune Italie entre 1861 et 1865. En attendant, son urbanisme et son architecture très baroque, marqué également par le 19e, font de Turin une ville un peu à part en Italie. La plupart des immeubles ont été construits en briques, recouverts de stucs, d'où la forte sensation de se trouver dans une ville solide, puissante. Et un des cœurs battants de Turin, ce sont d'abord les fameux cafés historiques, des endroits au décor centenaire, avec à chaque fois que vous pénétrez dans l'un d'eux, l'impression de faire un voyage dans le passé en côtoyant des fantômes, que ce soit Nietzsche, Alexandre Dumas, Puccini. Quand on arrive par exemple au café Albiserin, on vous sert un chocolat qui est tellement épais, tellement onctueux qu'on a presque envie d'aller se baigner dans une piscine de ce chocolat. C'est un vrai plaisir parce que c'est vraiment une plongée dans l'histoire. Turin, c'est aussi la ville des icônes et des reliques. Dans la cathédrale, le seul monument de style Renaissance, avec le Duomo, vous avez le fameux Saint-Suaire. Il y aurait aussi un morceau de la vraie croix du Christ dans l'église Maria Oscillatrice. Et évidemment, la star de Turin, c'est quand même le musée égyptien. Créé en 1824, Champollion a vérifié toutes les pièces de ce musée. Il a affirmé que pour faire le chemin de Memphis à Thèbes, il fallait passer par Turin. C'est le musée égyptien le plus beau du genre, juste après celui du Caire. C'est un musée qui est totalement inoubliable. Et puis, il faut se rendre dans le monument, un des monuments les plus symboliques de Turin, la Mole. Un immeuble de 160 mètres de haut, entièrement en briques, construit en 1863. Il abrite aujourd'hui le musée du cinéma italien, parce que c'est à Turin que le 7e art italien est né. Ça n'est pas à Rome et ça n'est pas à Cinecittà comme on pourrait le croire. Dans ce musée, 150 000 photos, autant d'affiches, un fond de 7000 films. C'est un des musées les plus riches du monde en matière de cinéma. Le premier étage est sans doute le plus fabuleux parce que vous allez découvrir tout ce qui est technique. Les premières lanternes magiques, les premiers projecteurs et tout ce que la technique a apporté de magie au 7e art. C'est absolument passionnant. On en ressort émerveillé en se disant que en ce moment, ce serait dommage de ne plus pouvoir profiter d'une salle obscure simplement parce qu'on n'est pas vacciné.
RTL vous régale.
Jusqu'à 12h30, RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
On espère que vous avez passé une très bonne fin de matinée avec nous dans les Hautes-Alpes ce matin. Demain, nous allons chez vous, Louise.
Oui.
On va vous rendre hommage. Nous prendrons la direction des volcans d'Auvergne. C'est intérêt à nous sortir des recettes.
Vous allez voir.
Vous êtes la régionale de l'étape demain.
C'est incroyable.
On vous souhaite une très bonne journée. Vous écoutez RTL.
Carrière se joue demain.
Il est 12h30.